Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour mes frères et mes sœurs, je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment allez-vous? Ça va ce matin en forme pour Jésus? Amen. Que Dieu soit béni, sa grâce nous a été renouvelée et nous sommes heureux de ce qu'il permet que nous puissions librement nous rassembler pour pouvoir lui rendre ce culte. C'est le Saint-Esprit qui, en œuvrant en nous, mais à nous ces bonnes dispositions, puisque vous savez comme moi que c'est Dieu qui crée en nous, dites avec moi, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le bon plaisir ce matin, c'est que bien la grâce qui nous a été accordée permet que le Saint-Esprit dans nos cœurs ait mis ses bonnes dispositions pour que nous puissions, par la grâce que Dieu nous fait, nous rassembler librement, malgré le contexte extérieur que nous connaissons, et bien auquel nous sommes confrontés. Mais béni soit Dieu, nous sommes là ce matin. Et tout à l'heure, le frère Alain le disait dans sa prière, c'est toi qui as dit, Seigneur, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est là ce matin, amen. Et parce que Jésus est là, alors nous sommes là et nous sommes heureux d'être dans la présence de Jésus. Et quand Jésus est quelque part, eh bien on peut dissocier la présence de Jésus de la présence du Père. On ne peut non plus dissocier la présence de Jésus de la présence du Père, de l'action du Saint-Esprit, et dans quelques minutes, si Jésus est là, eh bien, il aura une parole à nous donner. On ne peut dissocier Jésus ni de sa parole, ni de sa présence. Et quand il est là, il y a sa parole, il y a sa présence, et puis il y a sa puissance. C'est ce que nous avons surnommé la règle des trois P. Sa présence, sa parole et sa puissance. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce matin, en tant que disciple de Jésus, en tant que racheté, notre Seigneur connaît particulièrement chacune de nos vies, et nous allons voir tout à l'heure comment, au travers de sa parole qu'il a préparée et qui va nous dispenser comme la nourriture au temps convenable, eh bien le Maître, ce matin, non seulement il est au milieu de nous, mais il va nous parler pour pouvoir nous encourager, nous fortifier, nous soutenir, nous relever, consoler enfin, c'est un peu sa qualité de bon berger au sein de ses brebis, dispensant les soins appropriés à chacun selon les besoins. Gloire à Dieu. Ma part ce matin, j'ai un besoin particulier, j'ai besoin de Jésus. Sans lui, je ne peux rien faire. Il est ma respiration, il est mon tout, il est mon maître, il est mon roi, il est mon seigneur, il est mon sauveur, il est mon libérateur, il est mon rocher, il est ma force, ma forteresse, il est mon bouclier, enfin, il est tout pour moi. Tout pour moi, et je le bénis de ce qu'un jour, personnellement, de ce qu'un jour, sur le chemin de ma vie, il a eu la bonté de s'arrêter sur ma misère. Et s'arrêtant sur ma misère, il a eu pitié et compassion de moi, il a brisé le joug du péché qui, en pesant sur mon âme, me retenait dans l'esclavage. Il a brisé les verrous de fer et abattu les portes des reins. Et il a permis que mon âme s'échappe comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, pour trouver enfin le vrai, le véritable et le réel repos. En Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous allons maintenant nous arrêter sur une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Vous savez, dans la bouche de Jésus, il est sorti beaucoup de paroles, mais c'est ce sur quoi mon Seigneur a bien voulu m'arrêter ce matin pour me donner à considérer, eh bien, ce que nous allons partager comme étant la direction dans laquelle il veut nous conduire et au travers de laquelle il a résolu de nous donner l'enseignement nécessaire ce matin pour chacune de nos vies. Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons regarder au chapitre 21, Matthieu 21, à partir du verset 28. Et il se pourrait ce matin que cette parole que nous allons partager, que ça sorte un peu des habitudes, que je définirais comme un petit peu conventionnel, si je peux m'expliquer ainsi, m'exprimer ainsi. Mais avec le Seigneur, il n'y a rien de conventionnel. Quand le Seigneur a besoin de parler, eh bien, il sait nous parler. Amen. Et au travers de sa parole, il y a toujours des situations qui sont mentionnées, et au travers elles, notre Seigneur permet qu'il y ait des ouvertures où il nous communique sa pensée, sa parole, et en nous la communiquant, c'est sa façon à lui de nous amener à regarder en nous-mêmes par rapport à ce que Jésus dit, où nous en sommes. Et avec ce que notre Seigneur nous dit, nous nous conduisant à regarder en nous-mêmes, eh bien, il y a quelquefois, eh bien, cette nécessité que nous fassions nous-mêmes, eh bien, un bilan, comme une espèce de bilan, d'évaluation, si vous préférez, pour pouvoir bien voir, là, il y a quelque chose à rajouter, là, il faut retrancher, là, il faut améliorer. Enfin, la parole du Seigneur, c'est comme un miroir dans lequel Dieu permet que nous puissions regarder l'état de notre âme, et par sa grâce, puisque Jésus est là, et quand Dieu me demande quelque chose, quand Dieu me dit de faire quelque chose, eh bien, il va pas simplement me dire de faire quelque chose, puis rester là, regarder comment je fais, mais par son esprit, il va m'aider à faire ce qu'il me demande de faire. Gloire à Dieu. Voilà. Parce qu'il sait que, quelquefois, comme l'apôtre a dit, j'ai la bonne volonté, mais j'ai pas le pouvoir. N'est-ce pas? Et il y faisait lui-même ce constat quant à ce qu'il était dans la chair. Et ce constat l'a mené, après avoir fait plusieurs évaluations, que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je voudrais pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, eh bien, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui le fait à moi. Enfin, il a trouvé tous les moyens pour expliquer ce qu'il vivait à l'intérieur de lui-même. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui est la loi du péché. Et l'ensemble l'a amené à un constat qu'on appelle un constat de misère. Misérable que je suis. Et avec ce constat de misère, une question se pose, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais la réponse arrive rapidement, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et puis, il amène, après avoir développé tout cela, je vous parle de l'enseignement de Romains 7, mais lorsqu'il arrive, après avoir fait le constat de misère, voici que jaillit comme un monument sous lequel le Seigneur dresse une réalité spirituelle glorieuse et qu'il amène à cette confession, il y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, source de délivrance, source d'espérance, source de tranquillité, source de repos, source d'assurance. Et puis une aide véritable pour continuer à avancer malgré tout ce que je suis maintenant appelé à gérer, tout ce combat à livrer, le Maître Jésus les a livrés avant moi. Et parce qu'il est mon modèle, alors il a mis en moi le Saint-Esprit pour m'aider à avancer et ce malgré. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse, mais elle va devenir merveilleuse au fur et à mesure que je comprends les choses de Dieu. Oui, parce que dans ce cadre-là, tous nous ne sommes pas à la même enseigne. Certains ont des niveaux de compréhension plus grands que d'autres, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont ni mis de côté ni exclus. Le Seigneur compose avec eux pour ceux qu'ils sont. Mais son travail de berger, c'est de les enseigner, de les aider à comprendre, de les amener à saisir des réalités spirituelles qui progressivement, à partir du moment que nous y sommes entrés, vont devenir vie en nous pour que nous puissions vivre par elles. Oh, ce sont des paroles que vous avez souvent entendues de la bouche du pasteur Gentil, mais écoutez, c'est comme ça que le Seigneur me permet de les vivre. Alors, s'il me permet de les vivre comme ça, je crois que on est fait du même bois, n'est-ce pas? Un pasteur ou le frère Claude n'est pas quelqu'un qui, comment dirais-je, qui vit dans les nuages. Non, on est confronté aux mêmes choses. Et la Bible me le dit, nous dit, que Jésus a connu ces choses avant nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Alors c'est pourquoi il peut venir à notre secours et secourir ceux qui sont tentés, que son nom soit béni ce matin. Alors faisons la lecture, mes bien-aimés, pour que nous puissions entrer dans la méditation d'après ce que notre Seigneur veut que nous puissions considérer. Alors j'ai dit quoi ? Aidez-moi. Évangile de Matthieu, le chapitre 21, verset 28. Ça commence par une question. Que vous ensemble ? Que vous ensemble ? C'est Jésus qui parle. Et cette question que Jésus pose, que vous ensemble, eh bien, arrive à un moment particulier, puisque notre Seigneur va prendre une parabole pour expliquer ou montrer derrière cette parabole, au travers de cette parabole, celui qui a fait la volonté du Père. Pourquoi prend-il cette parabole? Parce que, à partir du verset 23, ne le lisez pas maintenant, vous le lirez chez vous. Eh bien, c'est quelque chose à laquelle Jésus est confronté avec une catégorie de gens religieux définis comme étant les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Et ils sont venus vers Jésus et ils ont posé à Jésus cette question, par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui t'a donné cette autorité? Mais je crois que cette question, lorsqu'elle est posée à Jésus, eh bien, en elle-même, elle définit toute l'ignorance dans le cœur de ceux qui posent la question. Parce que celui à qui on pose cette question, nous le connaissons, c'est le Fils de Dieu. Et de sa bouche, après sa résurrection, est sorti, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Dans son ministère terrestre, le témoignage est rendu de lui dans la maison de Corneille, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Lorsqu'il avait agi, tellement ce qu'il faisait était glorieux, gens religieux ou même la grande foule, était unanime de dire, non seulement nous n'avons jamais rien vu de pareil, mais ailleurs, comme le grand jour de la fête, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Enfin, autant de témoignages qui pourraient nous montrer qui était ce sauveur merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, du temps de son ministère sur la terre. Mais là, ces gens ont posé la question à Jésus, par quelle autorité ? Jésus leur répondit, je vous adressais aussi une question. Et si vous me répondez, alors je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Première question. Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Ça raisonnait. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils ont préféré, ils répondirent à Jésus, nous le savons, menteur. C'est moi qui le rajoute, hein. Parce qu'ils le savaient bien. Mais pour essayer de demeurer dans une justification erronée, ils ont dit, nous ne savons pas. Ça veut dire, ils ont essayé de faire une feinte. Mais avec Jésus, ça ne marche pas. Regardons la suite. Alors Jésus leur répondit, il répondit verset 27 à Jésus, nous ne savons. Il le dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et voici maintenant le verset 28 qui va nous introduire dans la méditation. Que vous ensemble. Donc Jésus va prendre une parabole pour pouvoir montrer un petit peu la leçon qu'il veut leur communiquer. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas !» Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Quelle même chose ? Mon fils, va travailler dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien. Et puis il rajoute, Seigneur, il est poli, hein. Je veux bien, Seigneur. Donc il manifeste une grande politesse à l'égard de son père. Mais tout en ayant manifesté une grande politesse, la suite nous dit, et il n'alla pas. Alors, verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Alors, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Qu'est-ce que Jésus dit en vérité qui va nous intéresser ce matin? Lisez avec moi. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus nous amène ce matin sur un terrain particulier. Et le terrain particulier, c'était quelque chose qui se faisait assez fréquemment dans l'époque, surtout parmi les gens religieux, et même quelquefois parmi le peuple, souvent ils associaient les publicains et les gens de mauvaise vie ou les prostituées, si vous préférez. Et voici que Jésus prend cette image-là pour donner une leçon quant à l'importance de la repentance. Et Jésus s'adresse à eux pour leur montrer que les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume de Dieu. Mais s'il y avait une catégorie de gens à cette époque qui étaient rejetés, jugés, montrés du doigt, condamnés, qu'on évitait, c'était bien cette catégorie publicains. Pourquoi ? Les publicains, c'était une catégorie de personnes qui étaient des fonctionnaires d'État, et ils avaient cette particularité, en tant que juifs, établis par l'État romain, de récolter l'impôt des juifs pour le donner aux Romains. Donc automatiquement, c'était une catégorie de gens qui n'étaient pas aimés. Soit dit en passant, vous devez aimer votre précepteur, hein. Ah ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Hein. Parce que le préceptum, il fait son travail, même s'il pioche dans mon argent, mais il a le droit, parce que c'est quelque chose qui est légal, il faut que je me soumette à la loi. Et s'il me prenait l'envie de ne pas payer mes impôts, parce que j'aime pas mon précepteur, Dieu ne va jamais m'y obliger. Mais le jour viendra où j'aurai un redressement fiscal, au travers duquel je veux maintenant être purgé pour pouvoir payer tout ce que je dois à l'État. Un enfant de Dieu paye ses impôts, entre parenthèses. Hein. Mais revenons à notre sujet, mes bien-aimés. Donc, publicains, c'était une catégorie de gens qui étaient catalogués, ils n'étaient pas aimés, et particulièrement pour deux raisons, parce qu'on les considérait comme des collabos. Mais oui, on les considérait comme collaborant avec les Romains. Et puis, une autre particularité, c'est qu'on les considérait un petit peu comme des escrocs, ça veut dire s'enrichissant sur le dos des autres. Parce que certains disaient même qu'ils prenaient l'argent de la caisse pour le mettre dans leur poche. enfin, beaucoup de choses qu'il cataloguait. Donc c'était une catégorie de gens qui n'étaient pas du tout en odeur. Ah bon, tiens, ils n'étaient pas aimés. Et puis, les gens de mauvaise vie, les prostituées, ils étaient catalogués parce qu'ils faisaient le commerce de leur corps. Pour l'époque, c'était quelque chose qui était très mal vu. Ils avaient un rapport direct avec l'importance de la vie morale. Donc, regardez les deux formes. Derrière les publicains, nous avons la forme extérieure du péché. Mais derrière les prostituées, nous avons la forme intérieure, la vie morale, dans le corps du péché. Mais malgré tout, Jésus les prend comme exemple. Parce que quelqu'un peut avoir une vie morale tout à fait décousue, peu glorieuse, peut être montré du doigt. Écoutez, demandez à la femme de Samarie, quand Jésus est passé par la Samarie, demandez-lui. Jésus connaissait sa vie en détail, de telle manière que lorsque le Seigneur lui a dit « Va, appelle ton mari et viens ici », elle a réagi « J'ai pas de mari ». C'est ce que Jésus lui a dit. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Boum! Vous savez ce qu'elle a dit? En cela, Seigneur, tu dis vrai. Elle s'est pas cachée. Elle a rajouté à Jésus, je vois que tu es prophète. Je l'avais dit que la parole que Jésus lui a donnée, ça s'appelle une parole de connaissance, qui déshabille sa conscience et lui montre véritablement son état devant Dieu. Malgré tout, Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus ne l'a pas jugé parce que Jésus savait qu'elle était déjà jugée par ses concitoyens. Mais la grâce de Dieu lui a été servie sur un plateau d'argent et après qu'elle ait accepté Jésus, reçu le Sauveur, elle est devenue, une disciple pour aller propager comme témoin. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et puis, lorsque le témoignage a commencé à se répandre, d'autres Samaritains sont venus aussi et ils ont écouté Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont dit à la femme? Nous sommes venus, nous aussi, nous l'avons entendu. Et ce n'est pas maintenant à cause de ton témoignage, mais nous sommes venus, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Frères et sœurs en Christ, je sais que quelquefois, on peut montrer les autres du doigt. Mais la différence entre nous et le Seigneur Jésus, c'est qu'il agit sur le plan béni de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, donc, je vous expliquais, bien-aimés, les deux aspects, prostituées, gens de mauvaise vie et publicains, deux formes extérieures du travail du péché dans la vie de l'homme. La forme extérieure, il prenait dans la caisse d'après ce qu'on disait, il n'était pas aimé, montré du doigt, jugé, etc. Et puis, la forme intérieure, le travail du péché dans la chair, dans le corps. Mais, malgré tout, notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, pour aller plus loin dans le sujet, va nous amener à regarder 3 publicains dans la Bible. Le premier s'appelle, qui c'est qui a dit Zachée? Oui, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, on va le trouver. Et au travers de son témoignage, le Seigneur va nous donner aussi quelques leçons spirituelles. Luc 19, verset 1er. Donc notez bien la déclaration de Jésus, c'est que les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Pour montrer qu'un publicain, à partir du moment qu'il expérimente la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il a accepté, reçu, compris l'amour de Dieu à son égard manifesté en Jésus, il y a adhéré, il s'est repenti et il s'est engagé à suivre le Maître. Gloire à Dieu! Alors, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, le récit qui nous est donné dans ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Bon, et si je puis marquer un petit point d'arrêt, vous avez la connaissance, et concernant Jéricho, dans la réalité, selon ce qui avait été dit du temps de Josué, c'est une ville qui n'aurait jamais dû être reconstruite. Mais la prophétie s'est accomplie. Monsieur Yel de Bethel s'est levé et il a reconstruit Jéricho, mais il a posé les fondements au prix de son premier fils, et puis il a bâti la ville au prix de son fils cadet, selon la prophétie que Josué avait donnée. Mais quand même, Jéricho existait. Et si vous connaissez un petit peu l'écriture, il y avait une route qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et c'était une route qui était très dangereuse. Tellement dangereuse que du temps de la Bible, cette route a été appelée la route du sang. Parce qu'il y avait des attentats, des crimes, comme un peu ce qui est donné dans la parabole du bon samaritain, où il est montré qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et puis chemin faisant, il a été rencontré par des brigands qui l'ont roué de coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Puis, il s'est montré qu'un docteur de la loi qui descendait par là, fortuitement, si vous préférez par hasard, l'ayant vu, il est passé outre. Un lévite, c'est la même chose. Et puis, voici qu'arrive un samaritain. Un samaritain qui descendait aussi par ce chemin-là, eh bien, l'ayant vu, il s'est arrêté sur lui. Et puis, ce qui m'a semblé étonnant, c'est que partant en voyage, ce samaritain a eu la bonne idée de partir avec de l'huile et du vin. Moi, quand je pars en voyage, je ne pars pas avec de l'huile et du vin. Je ne veux pas que mes effets de voyage, le nécessaire de toilette, etc. Mais ce samaritain, il est parti en voyage avec de l'huile et du vin. Était-il prévoyant? Non, ça veut dire que derrière ce que la Bible nous montre, c'est que Jésus, il est toujours prêt à pallier à toute situation. Il a toujours les éléments nécessaires qu'il utilise au bon moment. De quoi as-tu besoin ce matin? Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Moi, pasteur gentil, je n'ai pas ce que tu as besoin. Mais Jésus a toujours ce qu'il te faut, quand il faut et comme il faut. Et il veut te le donner ce matin à bon escient. Parenthèse refermée, écriture retrouvée. Donc, nous avons vu que Jésus était entré en Jéricho, dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche. Donc, fort souvent, les publicains, c'était des gens riches. Fonctionnaires d'État, pour l'époque, c'était quand même des gens assez aisés. Mais celui-là, non seulement il était aisé, mais la Bible nous donne quelques détails le concernant. Un homme riche appelé Zachée. Et puis, il nous a donné encore une autre caractéristique, chef des publics. Donc, ça veut dire que M. Zachée, non seulement était riche, mais c'était un peu ce qu'on aurait à définir aujourd'hui, un cadre supérieur. Mais il est chef. Les chefs, les publicains, mais les chefs. Donc, c'est un cadre supérieur, il dirige les autres publicains. Donc, il était déjà pas aimé en tant que publicain. Il n'était pas aimé parce qu'il était riche, parce qu'on pensait qu'il piquait dans la caisse. Donc, imaginez un petit peu, mes bien-aimés, tout ce qui pourrait être vu concernant cet homme Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et là, je crois que ça, c'est quelque chose qui est agréable devant Dieu. Parce que quand je regarde son attitude, riche, cadre supérieur, mais il est au rang de ceux qui croient qu'ayant des biens matériels et croient qu'en jouissant des biens matériels, n'est pas satisfait par les biens matériels. Pourquoi? Il cherchait à voir qui était. Parce qu'il estimait qu'il y avait quelque chose de plus grand que l'argent, de plus grand que les honneurs, de plus glorieux que sa position sociale. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Il n'était pas satisfait. Es-tu insatisfait ce matin? Oui, pasteur, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ce que je suis dans le Seigneur. J'aspire à mieux. Alors pour cela, j'ai besoin d'aller plus près de Jésus. J'ai besoin de savoir qui il est vraiment pour que je puisse recevoir de sa part ce dont j'ai besoin, ce que j'attends, ce en quoi j'espère, en un mot, ce qui me manque. Si c'est le cas ce matin, alors tu es au bon endroit et tu viens à la bonne personne. Continuons. Continuons, mes bien-aimés. Et ce monsieur qui est insatisfait par rapport à sa position sociale, son argent, sa richesse, sa position de cadre, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais, il ne pouvait y parvenir, premier obstacle, à cause de la foule. Deuxième obstacle, car il était de petite taille. Je me suis laissé à la pensée que si ce détail nous est donné, c'est parce que Monsieur Zachée, quoi qu'étant un cadre supérieur, quoi qu'étant un homme riche, quoi qu'ayant cette aisance, il avait quand même un certain complexe à cause de sa taille. Mais il n'a pas considéré sa taille comme un obstacle, ni la foule. Il a adopté un stratagème qui est ce que j'ai appelé... Pardon? Non. Un stratagème que j'ai appelé la détermination de la foi. Qu'a-t-il fait? Alors, il courut en avant. Voulez-vous le suivre avec moi, s'il vous plaît? Suivons-le, hein? Regardons-le, hein? Il court en avant. Avant quoi? Avant la foule. Et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Voir qui? Ah, pour voir Jésus. Il adoptait un stratagème, il a couru avant la foule. Petite taille, pas aimé, montré du doigt, jugé, catalogué, repoussé, mais lui, une seule chose l'intéressait. Oui, voir Jésus, c'est bien, mais surtout, combler son insatisfaction. Il voulait voir qui était Jésus parce qu'il était insatisfait des richesses, de ce qu'on disait de lui, du témoignage des autres. C'est une souffrance qu'il portait en lui-même. Mais il savait qu'il y avait quelqu'un qui pourrait l'accepter comme il était, qui n'allait pas le juger, qui n'allait pas lui montrer du doigt. La preuve, ce qu'il n'aurait jamais pensé, c'est ce qui va arriver. Oh, il y a un proverbe qui dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Mais là, vaut mieux que ça arrive comme c'est arrivé. Regardez la suite. Alors, le verset 4 nous dit qu'il a couru en avant, nous venons de le voir, et il est monté sur le sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Tiens, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, quel endroit? Eh bien, où était caché Zachée? Dans le sycomore. Il leva les yeux. Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi. Lui s'était hâté de monter dans le sycomore parce qu'il voulait tout voir sans être vu. Parce qu'il pensait que véritablement celui qui s'appelle Jésus, eh bien, il verrait d'abord qui il est. Peut-être que dans son esprit, il avait dit, je verrai qui il est, et peut-être plus tard, je viendrai pour lui faire part de mon attente, de mon besoin. Mais, quelquefois, je vous ai dit, quand on est pleinement insatisfait, et qu'on sait qui est Jésus, et qu'on va le trouver, on ne retourne jamais à vide. Et ce qu'il n'aurait jamais pensé, c'est ce que Jésus va faire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Zachée, hâte-toi de descendre. Elle dit, aussi vite tu es monté pour te cacher, dépêche-toi de descendre, parce que je t'attends. À toi de descendre, car il y a une nécessité impérative, laquelle il faut. Il faut quand? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh! Oh là là! Pour une fois, quelqu'un a voulu collaborer avec Zachée. Mais je vous ai dressé le tableau, hein? Publicain, collaborateur avec l'ennemi. Publicain, considéré comme un escroc. Publicain, montré du doigt. Publicain, rejeté. Mais justement, quand les autres vous jugent, qu'ils vous montrent du doigt, qu'ils vous rejettent, qu'ils vous cataloguent, Jésus vous accueille. Amen. Jésus vous accueille. Oh, ce matin, peut-être que tu es de petite taille, comme Zachée. Peut-être que tu as, peut-être que sais-je, une aisance matérielle. Peut-être que tu n'as pas de problème avec les fins de mois. Peut-être même que tu as fait un héritage conséquent et que tu essaies de gérer bien ce que tu as. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu portes une grande insatisfaction, que sais-je, quand tu as une situation peut-être personnelle, soit dans ta chair ou soit au dehors de ta chair. Alors, je crois que Jésus est disposé à t'accueillir ce matin. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'insatisfaction, mes bien-aimés, ce matin, nous tous, hein, quant à ce que nous sommes dans la chair, il y a de l'insatisfaction. À moins que nous nous complaisions en nous-mêmes pour pouvoir nous installer dans une position, eh bien, de propre justice, où nous estimons que nous sommes supraspirituels. Non! Chacun ce matin dans sa chair peut faire le même constat. Il y a des manques. Pourquoi, pasteur gentil? Eh bien, parce que dans ma vieille nature, il y a une action qui constamment, même si elle est sournoise, même si elle se fait de manière discrète, mais elle est néanmoins réelle. C'est le travail du péché dans ma chair. Par pensée, par parole, par action ou par omission, le péché se manifeste dans ma vieille nature. Et à cause de cela, je reconnais que j'ai besoin du secours de Jésus. C'est pourquoi je ne vais jamais regarder mon frère, ni du haut de ma grandeur, n'a pas satisfaction, lui comme moi, nous avons besoin de Jésus. Mais nous savons qu'une chose, c'est que le seul qui va jamais nous rejeter ni nous repousser, mais qui va compatir à nos faiblesses, il va nous prendre en main, qui va nous aider, qui va nous secourir, qui va nous relever quand nous sommes tombés, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je suis attaché à lui. Pourquoi je l'aime. Jésus ne m'a jamais attendu derrière la porte avec un bâton pour me dire « Viens par ici, je vais te régler ton compte. » Oui, le diable, lui, veut me régler mon compte. C'est son travail. Mais quand c'est Jésus, il a toujours une parole pour m'encourager. Claude, certes, mais va plus loin. Claude, Saint-Terrain. Claude, fais ceci. Toujours quelque chose pour pouvoir vous donner à être encouragé. L'ennemi, lui, ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Mais le bon berger, mes brebis, je les connais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous avez dit que ce matin, mon frère, ma sœur, dans ton insatisfaction, tu peux aller trouver le maître Jésus. Et la conclusion, c'est que après que Zachée se soit hâté de descendre, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec, alléluia, avec joie. Il a reçu le maître avec joie. En effet, quand un maître comme Jésus s'arrête sur votre situation, vous adresse une parole, vous montre qu'il vous attend. Eh bien, vous savez, lorsqu'il vous parle, sa parole a cette particularité par le Saint-Esprit de dégager la crainte. Et vous venez vers lui. Oh, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est facile, mais quand vous avez compris ce qu'il attend de vous et que vous faites ce qu'il vous demande, alors le résultat ne peut être que plus probant. Et puis la déclaration de Jésus concernant ce qui va suivre, Zachée se tenant, non, attendez, verset 7. Verset 7. Mais voyons cela, tous disaient Alléluia. Non, il n'y a pas d'Alléluia. Non, 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 non. Parce qu'ils considèrent non pas Jésus le Fils de Dieu et cette expérience bénie que fait Zachée, mais ils sont toujours à regarder les choses sur un plan humain. Et le regard humain n'est pas autre chose que le résultat qui découle de l'enténèbrement de leur esprit. Car quand vous avez reçu la lumière de Jésus dans votre cœur et que vous voyez Jésus intervenir pour secourir quelqu'un qui cherche à le rencontrer, c'est un sujet de joie. Vous vous réjouissez avec celui qui se réjouit. Mais là, ce n'est pas le cas. Voyons cela. Dites avec moi. Tous. Tous murmuraient. Tous. Tous ont murmuré ce jour-là. Et leurs murmures ont été unanimes et disaient concernant Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Comme si eux, qui murmuraient et qui déclaraient dans leur murmure que Jésus est allé loger chez un homme pécheur, comme si eux étaient justes. On sera toujours plus sains que les autres. Misérable. Tu n'as pas conscience de ton état. Zachée avait conscience du sien. Voilà pourquoi il a cherché à voir qui était Jésus. Tu peux faire avec le Seigneur une belle expérience. Mais ce n'est pas pour ça que tu peux être catalogué avec une étiquette de sainteté. C'est pas ça. Parce que la sainteté que tu prônes aujourd'hui, pour montrer que tu es supraspirituel, demain elle peut fondre comme neige au soleil. Parce que déclarant ta sainteté et voulant la manifester aux yeux des autres, cela veut dire que tu es déjà sur la route de la séduction à toi-même. Tu te séduis toi-même. Et lorsque la séduction a fait son travail, il vous installe dans une position de complaisance, la séduction, la complaisance, qui introduit la tolérance, et après l'ensemble se termine par l'aveuglement. Mais quand vos yeux sont ouverts, Seigneur, ouvre vos yeux d'abord sur vous-même. On voulait ouvrir les yeux sur les autres, mais Dieu vous ouvre les yeux sur vous-même. Et quand vous avez les yeux ouverts sur vous-même, alors vous savez ce que vous faites, vous vous repentez. Seigneur, fais-moi grâce. Écoutez, moi je ne sais pas pour vous, hein, mais dans ma communion avec le Maître Jésus, je suis fort souvent amené à lui dire, Seigneur, moi il n'y a rien de bon. Mais je vais plus loin, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Parce que je suis conscient de la dimension de sa sainteté, de sa grandeur, de son amour, de sa bonté. Et moi, petit bonhomme d'argile, eh bien, il accepte de collaborer avec moi. Alors, je vais simplement commencer par dire, je suis meilleur que les autres. Mais non, le jour où je me laissais aller à penser comme cela, ça veut dire que ma folie sera manifeste. Non, 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 misérable que je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me confie en toi. Je m'appuie sur toi. Je m'humilie devant toi. Oh Dieu, que je trouve grâce à tes yeux. Et vous savez ce que Jésus a dit, après qu'on ait dit qu'il est allé loger ce homme pécheur, voilà le cœur de Zachée qui s'ouvre. Seigneur, Zachée, mais Zachée, verset 8, dit Seigneur, se tenant debout, Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il en avait des biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, alors je lui rends le quatre fois plus. Eh bien, ce sont les paroles d'un cœur repentant. Ce sont les paroles d'un cœur sincère. Ce sont les paroles de quelqu'un qui vient de rencontrer Jésus. Jugé par tous. Tous mis au mur. Montré du doigt, rejeté, catalogué, tout ce que vous voulez. Mais quand il est devant Jésus, à cause de ce qu'on dit de lui, Seigneur, si, n'allez pas dire que certaines personnes disent que Zachée c'était un voleur. C'était ceci, c'était cela. Il a dit si! Donc il n'a pas dit j'ai fait, mais si j'ai fait. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de moi, si par exemple j'ai gonflé un petit peu la feuille d'impôt, si j'ai mis un zéro en plus, Seigneur, alors je lui donne quatre fois plus. Ah, c'est beau ça. Eh bien, notre Seigneur a réglé la question. Comment a-t-il réglé la question? Jésus lui dit, vous savez, c'est un dialogue entre lui et Jésus, hein. Résultat de la rencontre. Résultat de son expérience. Et tout ce qui va en découler. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tiens, qu'est-ce qu'Abraham vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'Abraham vient faire là-dedans? Mais l'évocation du nom d'Abraham ici est significatif. Parce que derrière Abraham, nous avons l'homme de l'alliance, l'homme des promesses, celui à qui Dieu a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta postérité ». Donc ça veut dire que Dieu était en train de travailler et l'évocation ici du nom d'Abraham montre simplement pour finir que toute l'attitude de cet homme appelé Zachée n'était pas autre chose qu'en réalité le résultat de la foi qu'il avait placée en celui qu'il cherchait à rencontrer. Vous savez, quand vous avez la foi en Jésus, la foi sera toujours récompensée. Ou peut-être d'une manière particulière, que vous n'avez pas pensé, mais que Dieu, lui, voit. Parce que Dieu dit, celui qui m'honore, moi je l'honorerai. Alléluia. Mon frère, ma sœur, courage ce matin. Ouais, ce matin, parce que le même qui est intervenu dans la vie de Zachée pour combler son insatisfaction, il peut s'arrêter sous ta situation ce matin et te donner à obtenir de la part du Père au-delà de toutes tes espérances. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ, que Dieu soit. Bon, écoutez, moi j'ai encore deux publicains, mais je sens que l'heure coule tellement vite. Je vous avais dit trois publicains, hein? Mais je crois que ce matin, on va garder un seul. Ah, vous voulez que je conclue? Que j'aille un petit peu plus loin? Oh, c'est pas compliqué. Le deuxième publicain, il s'appelait Lévi. Il a reçu de la part de Jésus un appel, mais sans condition. Lévi, suis-moi! La Bible nous dit, il se leva et le suivit. Ailleurs, Jésus avait dit à Pierre et à son frère André, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Donc un appel avec une contrepartie. Mais là, c'est un appel sans contrepartie. Lévi se leva et le suivit. L'évangile de Marc, il est dit que Lévi laissa tout. Pourquoi il laisse tout? Parce qu'il a trouvé en Jésus-Christ ce qu'il n'avait jamais trouvé ni dans le travail, ni auprès des autres. Il s'est levé, il a laissé tout. Mais, alors s'il laisse tout, pasteur, qu'est-ce qu'il va faire là, qu'est-ce alors? S'il laisse tout, il aura un blâme. Mais il laisse ça de côté, parce que l'appel de Jésus vaut mieux que tout ce qui est ici-bas. Il se lève et le suit. Et puis, lorsqu'il a suivi Jésus, comme cela se faisait dans l'époque, oh, c'est le récit de Matthieu 9:9. Prenons-le, parce qu'en le prenant, je vais vous amener à la deuxième leçon spirituelle que Jésus veut nous communiquer. Le premier, Dieu fait grâce à qui il veut. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas aimé, Dieu lui fait grâce. Le deuxième, il reçoit de la part de Jésus un appel. Matthieu 9:9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péagers. Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ailleurs, dans Marc, il est dit qu'il laissa tout. Et puis, regardez la suite. Comme cela se faisait pour l'époque, comme Jésus était à table dans la maison de qui? La maison de Lévi. La maison de Lévi, la maison de Matthieu. Regardez la suite. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, dis avec moi, beaucoup de publicains. Je ne sais pas combien ils étaient, mais si la Bible dit beaucoup, ça veut dire que la maison de Lévi, ses copains publicains, étaient aussi présents pour l'occasion. Mais il n'y avait pas simplement que les publicains, il y avait encore une autre catégorie. Regardez, beaucoup de publicains, et ajoutez avec, des gens de mauvaise vie. Les publicains, a dit Jésus, et les prostituées. Les voici encore. Vous devancerez dans le royaume de Dieu. Alors, vint se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Bien, voici notre catégorie. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi? Votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi? Alors, Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez! Et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc, regardez avec moi la scène. Beaucoup de publicains. Et s'il y a beaucoup de publicains dans la maison de Lévi, laissez-moi vous dire que la foule était là en train de prier. Regardez. Je vous ai dit, ce sont des hommes qui ne sont pas aimés. Ils sont catalogués, jugés, rejetés. Parce qu'ils sont mis dans une catégorie d'escrocs et de collabos. Mais dans la maison de Lévi, ils sont dans la présence de Jésus. Alléluia. Ils sont dans la présence de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus les connaît? Mais Jésus connaît exactement qui ils sont. Publicains et gens de mauvaise vie. Jésus connaît chaque situation, chaque cœur, chaque besoin, chaque état. Rien ne lui échappe. Mais la déclaration qu'il fait, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Mais plus haut, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et moi, j'ai compris que derrière les paroles de Jésus dans l'enseignement qu'il veut dispenser, je ne vais pas dire vous, hein. Moi, je peux être bien portant physiquement. Mais spirituellement, je peux être malade. Et la maladie spirituelle, vous savez, si je dois être traité, ce n'est pas un doliprane qu'il me faut. Il y en a fait également, comme dit mon frère Henri. Alors, pasteur gentil, qu'est-ce qu'il faut comme médicament? Mais il faut que j'aille trouver le grand docteur. Et quand je vais trouver le médecin,
Il a toujours le médicament approprié. Des fois, il me fait une piqûre. Hein. Alors, c'est le cas de le dire, n'allez pas dire que parce que j'ai dit qu'il faut se faire vacciner. Attendez, non, s'il vous plaît, ne prenez pas cette direction-là. Mais quelquefois, le médecin nous fait une piqûre. Il nous fait une injection. Il nous donne une dose. Parce qu'il sait comment faire. Et je vous assure que quand il vous donne la piqûre, si ça peut faire mal au départ, parce que quand ça touche la peau, ça pique un petit peu. Mais après, quel bien ça vous fait à l'intérieur. Le processus de la guérison est enclenché. Et quand le Seigneur l'enclenche, vous savez ce qu'il fait après? Il va revenir voir par le Saint-Esprit l'effet de la piqûre. Et quand la piqûre a fait son effet, il agit d'abord sur votre esprit. Et il va commencer à dégager toute négativité pour le remplacer par ce qui est spirituel, positif, béni, heureux, et qui, à l'intérieur, va vous conduire à glorifier Dieu. Enfin, j'ai pris cette image-là parce qu'il y a tellement de choses à considérer. Ce matin, Seigneur, sur le plan spirituel, je suis malade. J'ai besoin de tes soins. N'allez pas dire que je veux venir à l'onction d'huile. L'onction d'huile, tu peux venir si tu veux, mais ce n'est pas ça qui va te guérir sur le plan spirituel. Ça, c'est pour ton corps. Mais si véritablement tu reconnais ton besoin sur le plan spirituel. En fait, je n'ai pas le temps ce matin de développer les maladies spirituelles, car si c'était le cas, je partirais de la tête, je partirais dans les yeux, je partirais des pieds, je partirais des mains. Enfin, il y aurait trop de choses à dire. Je ferme la parenthèse. Et puis le dernier publicain. Comme ça, le sujet sera clos. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Ah, vous connaissez, le Seigneur va prendre deux paraboles, une première pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher, et puis il va montrer, par la deuxième parabole, qu'un monsieur qui était un pharisien, il est monté au temple, et puis, debout devant Dieu, il va crier à Dieu sa satisfaction de lui-même. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci. Et puis là, il va mettre en évidence, au travers sa satisfaction personnelle de lui-même, la satisfaction à cause de ses œuvres. Je jeûne, je fais ceci, je fais cela, je donne la dîme de tous mes revenus. En fait, il crie devant Dieu sa satisfaction personnelle. Et derrière la satisfaction personnelle, il est en train de se placer dans une propre justice. Et puis, le publicain, lui, avait une autre attitude. Il nous dit qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et se frappant la poitrine, il n'a pas dit « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute », hein. Mais il a dit à Dieu, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et le pharisien va dire à Dieu sa satisfaction, et puis il dit, moi je ne suis pas comme le reste des hommes, hein. Et puis il va regarder le publicain, ni comme celui-là, là-bas, là, sale, misérable. Tu te crois meilleur que l'autre, tu cries ta satisfaction personnelle de toi-même, mais en criant ta satisfaction personnelle, eh bien, tu montres que tu es en abomination devant Dieu. Parce que l'autre, il est descendu chez lui, justifié, a dit Jésus, plutôt que l'autre, parce que il a reconnu sa misère. Ce matin, je reconnais ma misère. Je m'humilie devant mon Dieu. Je crie à lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je suis pas content, satisfait de moi-même, mais comme tu l'as fait pour Zachée, remplis-moi de ta vie par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, mes bien.